Bonjour à tous, vous écoutez Capital sur Radio Grand Ciel. Au micro,
Christine Afota
et Elisabeth Couget. Aujourd'hui, nous partons en Asie, à Singapour. Profitons d'un récent voyage de Christine qui va nous faire découvrir une capitale qui est aussi un pays.
Ah, c'est vrai, parce que l'île de Singapour est à la fois une cité et un État. Elle est petite par la taille, elle est grande par la réputation et vraiment Singapour est une capitale qui déborde d'énergie et qui accueille aussi une des sociétés les mieux organisées du monde.
Alors où se situe exactement Singapour ?
Sur la carte, Singapour se résume à un point au sud de la péninsule de Malaisie. C'est une grande île basse de 700 km² environ et elle se situe tout près de l'équateur, juste moins 1 degré au nord. Donc le climat y est chaud, humide, avec des averses violentes mais brèves qui durent environ une demi-heure et qui rafraîchissent bien sûr l'atmosphère presque tous les jours. En fait, on peut être trempé en 3 secondes, tellement c'est violent. Et ces conditions favorisent bien sûr l'épanouissement d'une végétation extraordinaire, une luxuriante.
D'accord. Alors, peux-tu nous parler un peu de son histoire ? Tu sais combien j'aime l'histoire.
Je sais, Elisabeth. Alors, le village, d'abord, de Singapura, qui a donc donné son nom à Singapour. Singapura veut dire en tamoul la cité du lion. Et ce village de Singapura est fondé au XIVe siècle. C'est un prince de Sumatra qui naviguait au large et qui avait cru voir un lion sur l'île. En fait, il avait probablement la vue très basse parce qu'il n'y a jamais eu de lion à Singapour, mais beaucoup de tigres par contre. Et à partir de ce moment-là, une poignée de pêcheurs, de paysans, mais aussi des pirates s'installent sur l'île. Et l'île reste possession de Sumatra jusqu'en 1819.
Mais le destin de Singapour change avec l'arrivée des Anglais.
Sir Stamford Raffles, c'est un naturaliste et il est le gouverneur anglais de l'île de Java. Il arrive en 1819 à Singapour et il décide aussitôt d'y fonder un comptoir, car il pressent d'emblée l'importance stratégique de Singapour. Et il faut dire qu'il est véritablement un visionnaire, car Singapour à l'époque n'est qu'un marécage inhospitalier entouré d'une jungle dense. Et Raffles va faire de Singapour un port franc et il va y bâtir aussi un fort. Du coup, la population augmente rapidement et Chinois, Malais, Indonésiens affluent, attirés autant par le statut de port franc que le fait que ce soit une possession britannique. En 1824, soit 5 ans après l'arrivée de Sir Raffles, on passe de 150 habitants à 10 000 et le commerce est florissant. On peut dire que le démarrage de Singapour est spectaculaire.
Et Sir Raffles a fait aussi beaucoup pour la ville, je suppose.
Bien sûr. Il met en place un ambitieux plan d'urbanisme, bâtiments gouvernementaux, grandes rues bordées de shop house, c'est-à-dire des maisons dont le rez-de-chaussée est occupé par un magasin, des chantiers navals, des églises, un superbe jardin botanique. Il disait que Singapour serait un jour, je le cite, un lieu de prestige et d'importance considérable. Et les plans de Raffles suivaient aussi la pratique coloniale anglaise, consistant à diviser la population en quartiers distincts où vivent et travaillent des populations comme donc quartiers européens, indiens, chinois, malais, qui ne se mélangent pas et qui vivent chacun dans leur quartier.
Voilà, c'était un petit peu l'habitude dans les colonies, dans le temps, oui. N'est-ce pas ? Mais comment se répartit aujourd'hui cette population ?
La population de Singapour est actuellement de plus de 5 millions, 5,2 millions exactement. Il y a 3 grands groupes, chinois, malais et indiens, et une foule de minorités. Les Chinois sont la grande majorité puisqu'ils sont 75%, les 3/4. Il y a 2 sortes de Chinois, si on peut dire. D'une part, les Chinois de souche qui sont nés sur l'île et qui sont appelés les Chinois Peranakan. Peranakan, ça a particulièrement donné lieu à un style architectural qui est plein de charme, le style Peranakan. Ce sont des maisons colorées, de couleurs vives, avec des fenêtres à balustrade. Et l'autre groupe de Chinois est dit Hokkien, ce sont des Chinois du sud, de Fujian, et qui arrivèrent un petit peu plus tard par jonques entières. Et ces Chinois sont des personnes, une personnalité souvent opiniâtre, ils deviennent commerçants et hommes d'affaires, et ils forment environ 40% des Chinois de Singapour.
Et les Malais, puisque tu disais qu'il y avait des Malais aussi. Et
bien sûr, bon, puisqu'on y est tout près. Les Malais sont 14%. Et malgré la forte empreinte chinoise, Singapour exprime ses racines malaises par les emblèmes identitaires de la nation, comme par exemple l'hymne national qui se chante en malais. Le malais est d'ailleurs langue officielle, même si les quatre langues de Singapour sont le malais, le chinois, le tamoul et l'anglais. Et le premier président après l'indépendance en 1965 est un malais. Les malais, rappelons-le, sont de religion musulmane.
Il y a aussi des indiens, bien sûr.
Des indiens, qui sont 9%, surtout des tamouls. Les indiens ne sont pas tellement nombreux, mais leur influence est réelle dans la vie de tous les jours. Par exemple, la gastronomie, l'art, voilà. Et puis, il y a beaucoup d'expatriés qui travaillent surtout dans l'informatique et dans la finance.
Et en plus, c'est eux qui ont donné le nom à l'île. Effectivement. Alors après Raffles, la colonisation britannique, dont l'importance a été cruciale, comment s'est développé Singapour ?
Alors, il y a quelques faits importants. Par exemple, à la fin du 19e siècle, c'est l'ouverture du canal de Suez, et de plus en plus de navires vont faire escale à Singapour, qui devient, avec la Malaisie, le principal producteur de caoutchouc au monde.
Et de fait, la population augmente, je suppose.
Bien, par exemple, le recensement de 1911 compte 250 000 habitants de 48 races et parlant 54 langues. Qui dit mieux ?
Tour de Babel. L'île est restée isolée longtemps ou...
Jusqu'en 1923, date à laquelle on construit une chaussée surélevée, donc sur laquelle on passe maintenant en voiture, qui relie Singapour à la Malaisie.
L'île a-t-elle souffert de la Seconde Guerre mondiale ?
Très, très fort. C'est vraiment une époque noire. Singapour est bombardée le 8 décembre 1941 et ça va devenir le moment de l'occupation japonaise qui, comme dans d'autres endroits, est affreusement brutale. Près de 140 000 soldats des troupes alliées sont exécutés ou torturés sur l'île de Singapour.
Voilà, comment évolue Singapour après l'indépendance qui a lieu en 1965, il me semble.
Oui, et une autre personnalité à retenir après Sir Raffles, c'est le premier ministre de Singapour qui va l'être de 1965 à 1990, soit pendant 25 ans. C'est Lee Kuan Yew et il engage le pays dans la haute technologie et il fait de l'éducation et de l'accès au logement une priorité absolue. Par exemple, sait-on que Singapour détient le record mondial du taux de propriétaires. Et stabilité, dynamisme économique et puis aussi d'excellentes infrastructures vont attirer les multinationales.
Mais au prix de l'autoritarisme, certainement assez étouffant.
Qui est parfois, très souvent même reproché à Singapour. Mais... c'est certes, le pays est gouverné d'une main de fer, en appliquant les principes du confucianisme, c'est-à-dire ordre, progrès et réglementation des comportements individuels. En fait, dans cette ville cosmopolite où se côtoient et se fondent cultures asiatiques et occidentales, le comportement et les discours obéissent à des règles strictes. Et la politique de Singapour a toujours été de donner du pays l'image d'une nation multiculturelle où tous doivent cohabiter harmonieusement. Et ça fonctionne.
Quand on veut, on peut, n'est-ce pas ? Comment se traduit cette méthode de gouvernement ?
D'une part, par exemple, la liberté de culte est absolument garantie. Toute forme de discrimination ethnique ou religieuse est réprimée avec une grande sévérité. Et on voit au hasard des rues presque se côtoyer des clochers gothiques, des gopurams, c'est-à-dire des tours de temples indiens polychromes ou encore des minarets dorés. Mais d'un autre côté, il n'y a pas de liberté de presse. Même pas, on ne peut même pas imaginer Charlie Hebdo. Les médias sont soigneusement contrôlés. La peine de mort existe, elle est appliquée sans état d'âme pour les trafiquants de drogue où la tolérance est vraiment de zéro. Et si l'on est arrêté en possession de drogue à Singapour, c'est 10 000 euros d'amende et 10 ans de prison. Quant aux étrangers, c'est l'expulsion immédiate dans les 24 heures.
Même des incivilités mineures peuvent entraîner des amendes ?
Comme traverser en dehors des passages piétons.
Ou jeter un papier, oui. Cracher un chewing-gum.
Oui, et même mâcher du chewing-gum. C'est toujours interdit dans les lieux publics depuis que les portes du métro ont été bloquées il y a une dizaine d'années par un chewing-gum. Bon, on peut dire quand même que Lee Junior, c'est-à-dire le fils de Lee Kuan Yew, qui actuellement gouverne le pays, depuis 2004 maintenant, avec efficacité, il est un petit peu moins autocratique que son père. Par exemple, sur les passeports des hommes aux cheveux longs, on n'applique plus le tampon, alors je le dis en anglais, « suspected hippie in transit », c'est-à-dire « hippie suspect en transit ».
Bon. Ça, c'est amusant. Alors donc, ils n'ont pas le droit d'être là. Vraiment, ça laisse sans voix, c'est difficile. Du coup, cette cité ultra performante affiche une propreté digne de la Suisse, j'imagine.
Mais bien sûr. Et ce qui est très, très rare en Asie. Pas de saleté, pas d'agressivité, pas de chaos. Les trains sont sans graffiti, toujours à l'heure. Les embouteillages inexistants, les gens propres et avenants. Le taux de criminalité à Singapour est un des plus bas du monde. Ce qui n'empêche pas de voir dans les métros des affiches « Low crime doesn't mean no crime ». Un taux faible de criminalité ne veut pas dire « pas de criminalité ». Soyez prudents.
Ça laisse vraiment rêveur quand même. Hein.
Et on peut même voir parfois des pancartes où c'est marqué « crime alert », »,« alerte au crime ». Et renseignements pris, on nous dit qu'une bicyclette a été volée il y a 6 mois. « Alerte au crime ». Ça laisse rêveur.
Bon, ça laisse vraiment rêveur. Et ceci, bien sûr, rassure les grandes entreprises qui s'installent à Singapour. Il n'y a pas de problème, pas de grève. En fait, tout en marche.
Mais l'économie marche, est tellement vigoureuse. La croissance est de 6% par an. Le taux de chômage est très bas, 2%. Il n'y a certes pas de ressources naturelles à Singapour, mais le port de commerce est le plus important du monde et la population y est très qualifiée. En fait, Singapour est gouvernée à la manière d'une entreprise et montre un dynamisme économique qui est inégalé en ce monde.
Alors avant de visiter la ville et d'en découvrir les attraits, après l'histoire qu'on a découvert maintenant, une pause musicale. Et pour cette pause, je vous propose d'écouter l'hymne national.
Joué par la musique de la garde républicaine.
D'entendre l'hymne national de Singapour, ville et État que nous visitons avec Christine. Quelle est la première impression quand on arrive à Singapour ?
Dès la sortie de l'aéroport, sur plus de 15 km, la voie express qui suit le littoral est bordée d'un côté par des plages de sable, de l'autre par de luxueux immeubles frangés de casuarinas, ce sont ces arbustes dont la fleur évoque un plumage rouge et blanc qui ressemble au casoar de nos élèves de
Saint-Cyrien, oui.
Des Saint-Cyriens, voilà, c'est ça. Cocotiers, palmiers, bougainvillées et au large des navires qui battent pavillons de tous les continents attendent d'entrer dans le port.
Alors puis on arrive au cœur de Singapour, le long de Singapore River.
De long de la Singapore River. Et le patrimoine colonial a été sauvegardé. Et donc, on peut se promener dans le quartier colonial, dit Colonial District. Et bien sûr, le rendez-vous obligé, c'est l'hôtel Raffles, le symbole de l'Angleterre impériale, un magnifique palace de style Renaissance qui évoque avec charme et élégance la nostalgie et l'opulence coloniale. Les plafonds très hauts, les vastes vérandas qui ouvrent sur des jardins tropicaux, le sol pavé de marbre. En fait, tu vois, Elisabeth, on pourrait presque y croiser en imagination ces aventuriers, ces personnalités qui y ont séjourné comme Rudyard Kipling, Somerset Maugham, Joseph Conrad, André Malraux et tant d'autres.
Voilà. Et qui allait siroter au Long Bar un Singapore Sling?
Le Singapore Sling, c'est ce cocktail mythique, gin, sherry, bénédictine et cointreau, plus une larme de citron vert. Et on le boit tout en grignotant des cacahuètes dont on jette les cosses par terre. Quel défoulement dans une ville si propre! Ce sont les colons britanniques qui faisaient ainsi et la tradition a continué. Et au plafond, des éventails mécaniques se balancent en cadence, rafraîchissant l'atmosphère moite. Ah, le temps des colonies!
Ah, c'est merveilleux, ça me rappelle pour les chéris.
Juste aussi, quand même, c'est dans la salle de billard en 1902 à l'hôtel Raffles que fut tué le dernier tigre de Singapour.
Donc, on recevait même des tigres dans les salons.
Exactement.
Alors, il y a aussi des églises qui datent de l'époque coloniale, j'imagine.
La cathédrale Saint-Andrew est de style néo-gothique. Elle a été bâtie en 1862 par des bagnards indiens. Et elle est d'une blancheur éclatante. Et cette blancheur, elle la doit à un enduit composé de blanc et de coquilles d'œufs, de citron vert, de sucre et de coque de noix de coco. On en mangerait.
Oh oui. Et j'ai entendu parler de karaoké. Non, on y chante.
Mais oui, parce que c'est
soirée de karaoké dans la cathédrale. Non, non, quand même
si,
pas.
Si, si, si. Écoute, c'est une des rares églises où, je pense peut-être même la seule, où à chaque rangée de bancs, on a des écrans qui vous passent les paroles des hymnes. Et donc, il suffit de regarder l'écran et on chante tous en chœur « Thou art the Lord ».
Voilà. Bah, d'accord. Alors, y a-t-il beaucoup d'églises sur l'île?
Il n'y en a pas énormément, mais une autre église intéressante, c'est l'église arménienne, qui est la plus ancienne de Singapour, donc 1836. Et dans le cimetière de cette église se trouve la tombe d'Agnès Joachim, qui laissa son nom à la fleur emblème de Singapour, l'orchidée.
Ah, l'orchidée Miss Joachim. Mais qui était Miss Joachim?
Miss Joachim était une jeune Britannique qui habitait Singapour et qui a, pour la première fois, découvert donc, l'orchidée.
Qui devait adorer les fleurs.
Oui.
Bon. Et des musées, puisqu'il y a sûrement des musées.
Oui, alors citons surtout le musée des civilisations asiatiques, avec ses 10 galeries thématiques, qui présentent les diverses facettes des cultures et civilisations de l'Asie. On y trouve des pièces superbes, bien mises en scène, et qui témoignent de ce multiculturalisme de Singapour. Et aussi le Singapore Art Museum offre la plus importante collection d'art contemporain du sud-est asiatique.
À propos d'art contemporain, Singapour se distingue aussi par ses gratte-ciels futuristes, il me semble.
Mais oui, et dont on ne peut nier, je trouve, la beauté audacieuse et novatrice. Singapour se veut aussi une vitrine de l'architecture d'avant-garde, comme par exemple l'esplanade Théâtre sur la baie, qui est dédiée aux arts du spectacle. Ces dômes sont recouverts de parois métalliques aux angles aigus qui évoquent un énorme hérisson.
Alors, la statue de Merlion est aussi un emblème de Singapour.
C'est une fontaine qui représente une créature étrange, moitié lion, moitié sirène, donc Merlion.
Ah voilà, d'où le nom.
Voilà, et à l'arrière-plan de cette fontaine, les gratte-ciels du quartier des affaires impressionnent par leur hauteur et rivalisent d'une fascinante audace architecturale. Par exemple, le dernier en date, le Marina Bay Sand, est composé de 3 gratte-ciels de 59 étages. Et tout en haut, et s'appuyant sur les 3 immeubles, la plus grande piscine du monde, longue de 150 mètres. On dirait presque un TGV au-dessus des 3 immeubles.
C'est étonnant ça. Mais tout près, parfois au bas de ces hauteurs invraisemblables, sauf la diversité des quartiers ethniques, comme le quartier coloré animé de Chinatown.
Et ces marchés, ces échoppes de médecine chinoise avec leurs remèdes intrigants, ces ateliers de calligraphie, ces masques, ces lampions.
Et ces temples?
Le dernier construit, par exemple, il est colossal. Rouge et or, il date de 2007 et il abrite la relique de la dent de Bouddha. Espérons qu'il y a d'autres temples, parce que je pense que Bouddha avait plus qu'une dent. Mais... sur le toit du temple, il y a un immense moulin à prière coloré, c'est vraiment magnifique, entouré d'un ravissant jardin tropical et bien sûr de magnifiques orchidées.
Je suppose aussi qu'il y a les lieux de prière hindous.
Oui, par exemple, le temple de Sri Mariamam est en plein quartier chinois et pourtant c'est un temple hindou. Il date de 1827, il est classé monument historique et sa large tour dite donc Gopuram voilà, est décorée d'innombrables figures colorées qui représentent des sculptures de dieux et de vaches sacrées. Non, pas du et on peut aussi visiter le jardin du baume du tigre. Sait-on que le baume du tigre est une spécialité de Singapour?
Je ne savais pas.
On en trouve dans toutes les pharmacies. Et ce jardin du baume du tigre a été créé en 1930. Alors c'est un jardin qui, pour les Occidentaux, peut paraître assez kitsch en fait. Il y a des centaines de statues polychromes qui illustrent la mythologie chinoise. Par exemple, on peut se promener en barque dans le ventre d'un immense dragon.
Ah oui, là, je ne sais pas si j'aurais envie d'y aller. Mais le quartier indien alors?
C'est un quartier très animé qui s'appelle Little India, avec les saris aux couleurs vives et le parfum entêtant des épices. Les temples sont éblouissants de couleurs et de lumière, et puis ils portent des noms évocateurs. Le temple des mille lumières, le temple du dragon de la montagne.
Alors j'imagine que des boutiques et des étals sont tout autour, hein, comme en Inde en général.
Bien sûr, il y a des marchands qui vendent des guirlandes de jasmin tressé, de l'encens, ou bien encore des colliers de roses rouges, d'œillets jaunes et de jasmin blanc qui sont des symboles de prospérité.
Et alors, il y a d'autres ambiances colorées encore dans la ville?
Par exemple, si on se promène à Arab Street et dans les ruelles alentours, on est dans le quartier musulman et l'atmosphère y est orientale, beaucoup plus calme. C'est un quartier qui est dominé par le dôme doré de la mosquée du sultan Hussein Shah, qui était un grand ami de Sir Stamford Raffles. Et la salle de prière de cette mosquée immense peut accueillir 5000 fidèles.
Alors maintenant, si nous allions au cœur, au food court, goûter à la cuisine fusion où se mêlent une influence chinoise, indienne, malaisienne, indonésienne, occidentale.
Tout ça.
Tout en écoutant un peu de musique.
Un peu de musique chinoise.
On a à peine eu de goûter à quelques spécialités, mais voilà, tu nous en indiques un peu. Qu'est-ce qu'on mange là-bas alors?
Le chicken rice et le crabe au poivre vert. C'est fameux, hein, le poivre noir, pardon.
Bon, d'accord.
Et puis comme dessert, nous avons partagé le durian, cet énorme fruit typique qui est aussi gros qu'un ballon de foot et qui est hérissé de piquant. Et son odeur est aussi désagréable que son goût est délicieux.
Alors donc, je suppose qu'il faut boucher le nez pendant qu'on le mange.
Et d'ailleurs, il est interdit d'en transporter dans le métro, sinon, amende.
Ah bah d'accord. Alors, un peu de shopping alors?
Oui, le shopping, c'est un sport national pour les Singapouriens. Et surtout à Orchard Street. Autrefois, Orchard Street était plantée de poivriers et de muscadiers. Et les promenades pouvaient à tout moment être interrompues par une inondation ou un tigre en colère. Mais aujourd'hui, c'est un gigantesque paradis du shopping de luxe.
Alors, j'attire votre attention sur l'excellente prononciation de Christine. Elle parle parfaitement l'anglais. Donc, ça, c'est un endroit de luxe et d'enfer aussi.
Paradis ou enfer.
Beaucoup d'argent, effectivement. Alors, un autre surnom de Singapour est The Garden City, donc le Cité Jardin.
C'est un des grands attraits de Singapour. Des parcs, des réserves splendides, des lacs étincelants entourés de forêts tropicales où les singes se chamaillent dans les arbres.
Alors, dont les célèbres jardins botaniques.
Créé en 1860, sur 52 hectares au cœur de la ville, avec des frangipaniers, des palmiers, des hibiscus, des bougainvillées et même une jungle tropicale et des plantes préhistoriques. En fait, c'est un endroit idéalement reposant et dépaysant.
Voilà,
On peut admirer le pavillon des orchidées et ses 60 000 fleurs.
Il y a tellement de choses à raconter. Malheureusement, notre temps passe, alors on va accélérer un peu malheureusement. Mais on va essayer de tout vous raconter. Zoo de Singapour, bien sûr, qui est un des plus beaux du monde.
Un espace de 28 hectares, pas de grilles, pas de cages, juste des obstacles naturels comme rochers et rivières. 4000 animaux, tous qui ont l'air heureux, peut-être sauf les ours polaires. Ils sont trop chauds, là. Voilà. Des espèces rares, comme les dragons de Komodo, les rhinocéros blancs, les orangs-outans, les tigres blancs aux yeux bleus. Et une expérience inoubliable est le safari de nuit, où à bord d'un petit train, on peut observer la vie nocturne de ces espèces sous un éclairage spécial qui imite la pleine lune.
Alors, peux-tu conseiller encore d'autres balades?
Bien sûr. Alors, il y a le Jurong Bird Park, parc d'oiseaux, parc avec ses 8000 oiseaux et 600 espèces différentes, ou encore la réserve de Bukit Timan, qui est une forêt tropicale primaire de 164 hectares que traversent des sentiers de trek et qui est peuplée de macaques et de pangolins.
Voilà, pangolins.
Pangolins, c'est un animal très rare qu'on trouve peut-être plus beaucoup, à part Singapour. C'est une sorte de tapir au fin museau et qui est entièrement couvert d'écailles.
Et le Mont Faber?
Alors, le Mont Faber, c'est une petite colline d'où la vue embrasse toute la ville et le port. Et on peut prendre un impressionnant téléphérique qui nous mène vers Sentosa, l'île de Sentosa, transformée en fait en gigantesque parc d'attractions.
Alors, il doit souvent y avoir des occasions de fête dans cette société pluriethnique aux traditions si vivaces.
C'est tout à fait vrai. Ben, c'est toujours la fête à Singapour, puisqu'on y célèbre toutes les fêtes de toutes les religions. Du Nouvel An, on enchaîne sur la fête hindoue de Thai Pusam. C'est une fête spectaculaire où les pénitents tirent de grands chars décorés de plumes et d'images de dieux. Et ils les tirent à l'aide de crochets fixés dans leur propre épiderme, sans paraître ressentir aucune douleur.
Il faudrait leur poser la question.
Impressionnant. Ensuite, c'est le Nouvel An chinois, puis c'est l'anniversaire du dieu singe.
Hanuman.
Hanuman, suivi de Pâques, de la célébration du Bouddha, du festival des courses de bateaux dragons sur la rivière Singapour.
Et la fête nationale?
Elle est célébrée le 9 août. Arrive ensuite le festival des fantômes affamés, c'est l'opéra chinois. Le festival de Timiti, au cours duquel des colonnes de fidèles courent pieds nus sur des braises brûlantes. Après, le pèlerinage taoïste de Kuzu, la fête des neuf dieux empereurs, la fête indienne des Lumières, Deepavali, sans oublier le mois du Ramadan, et pour finir Noël, bien sûr, avec ses féeriques illuminations. Cette longue énumération exprime bien l'ambiance festive de Singapour.
Alors, une petite anecdote pour finir, si on a le temps, très rapidement.
Et qui résume bien le mélange de haute technologie et de croyances populaires qui règnent là-bas. La grande roue de Singapour est la plus haute du monde, avec ses 165 mètres, 30 mètres de plus que la roue de Londres.
À la roue de l'an 2000.
C'est ça. Alors au début, elle tournait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais des maîtres du Feng Shui, qui préside à la bonne disposition des choses, ont estimé que les énergies étaient malheureusement emportées au large, donc perdues. Donc ils ont fait pression pour que la roue tourne dans l'autre sens. On a dû tout démonter, tout remonter. Et à présent, la roue amène avec elle les richesses, les énergies vers le quartier des affaires et la ville tout entière.
Eh ben, ouf, à nouveau la rassurer sur le sort de Singapour. Merci Christine de nous avoir fait voyager dans cet endroit extraordinaire qui nous donne envie de prendre l'avion en direction de Singapour. Nous vous disons au revoir jusqu'à une prochaine émission
Capitale.